C'est lui, alias Joseph, alias Jésus. Il vous dira comment il faut faire. Et puis on vous dit, il y avait là déjà de pierre, 6. 6 et 7 moins 1, c'est-à-dire le manque, justement. Elles sont remplies, hein, on va les remplir à bloc, mais il y a quand même un manque. 500 litres de vin, c'est pas mauvais, hein. Enfin, quand il passe beaucoup de monde, il y avait là des jarres de pierre, 6 selon la purification. Non, il y a de l'eau dans les jarres, pénétrant chacune 2 ou 3 000. Donc c'est à peu près 150 litres de vin de vin. Et ça sert à la purification. C'est le contenu, hein, d'une purification. D'un à l'autre. Jésus dit amplifier les jarres d'eau et les emplir jusqu'au bord. Il faut d'abord arriver à la purification. Jésus, ce qu'il va nous donner, c'est un surcroît. Au-delà de la purification. C'est-à-dire qu'il la remplace, ça veut dire qu'il se situe comme une surabondance par rapport à cette purification. Les ardeaux et les empires jusqu'en haut. Vous leur utilisez maintenant et portez au maître du festin. Nous allons voir tout de suite pourquoi on va porter au maître du festin. Mais il faut que quelqu'un authentifie en quelque sorte ce qui s'est passé. C'est pas vrai. Et comme il avait goûté le maître du festin, l'eau se trouvant avec des vins, il ne savait pas d'où il était. Mais c'est pas ça, mais. Il ne savait pas ça. Non, quand il ne savait pas, il a fait. Quand il voit des choses. Donc il y a un moment où on sait. Ce moment où l'on sait, c'est quand quelque chose nous est donné. Donc on reçoit. Mais il ne savait pas, il savait. C'est vrai que le maître de festin fonctionne un petit peu comme Jean-Baptiste. Il ne sait pas très bien ce qui est en jeu, mais il s'aperçoit d'une grâce qui passe. Et il lui dit tout homme d'abord mais le bon vin, et quand éventuellement ils font plus, le moins. Quand ça fait de l'air. Il est en train de nous dire, la vie avance. On va de plus en plus vers l'accomplissement. Nous avons vu dans le schéma du prologue qu'on allait du commencement à l'accomplissement. Il y a ce qui est en train de se passer. C'est une perspective qui est donnée. Et vous pouvez évidemment prendre le texte comme, par exemple, le chapitre 25e du livre d'Isaïe. Nous avons vu, je prends souvent Isaïe parce que, comme nous l'avons vu, nous pouvons nous référer à du connu. Au chapitre 25e, vous avez une image du festin messianique. Le Seigneur préparera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande grasse juteuse, de bon vin clarifié. Il enlèvera sur cette montagne le voile de deuil qui voilait tous les peuples, le tuer qui ensevelissait toutes les nations. Il fera disparaître pour toujours la mort. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple. Il l'ôtera de toute la terre. Et nous voilà arrivés. C'est cette scène messianique avec le bon vin. Et ce bon vin qui coule à flot. C'est important qu'il y ait une telle quantité. On passe du manque à une surabondance. Tu as gardé le bon vin. Et ce n'est pas seulement une surabondance quantitative, c'est aussi une surabondance qualitative. Et on dit qu'il est bon, le vin. Il n'aime pas qu'il est bon, on dit qu'il est bon. Et on dit tout de suite qu'il fut le commencement des signes. Donc Jésus met ce signe dans le prolongement, dans le droit fil de son œuvre. Ce n'est pas encore son œuvre, c'est comme une anticipation, un signe de son œuvre. C'est ce qu'on dit, le commencement des signes. Donc son activité comme époux de l'humanité se symbolise dans le rapport qu'il a avec sa mère. Qui se symbolise. Marie n'est pas une épouse, elle est l'image de l'épouse. Les bouts dont on ne parle pas, c'est vraiment l'humanité, je veux bien écouter. En lui donnant une abondance de vin, le vin réduit le cœur de l'homme, une abondance de joie, qui dépasse, tout en passant à travers, la purification des choses. Comment ça, les choses se passent? Mais si vous regardez bien dans le texte, personne ne fait ce qu'il a envie de faire. Tout le monde obéit en fait. Marie voit un manque, elle obéit au manque. Elle va trouver son fils, et son fils lui dit, hé, minute, c'est ni à toi ni à moi de prendre des initiatives. C'est mon heure. C'est bon que mon heure, c'est l'heure du Père. C'est le Père qui détermine. Les servants, ils font tout leur vie. Le maître du festin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit goûter, il goûte. Et il ne sait pas.
Il goûte sans savoir.
Mais il donne quand même son jugement. Il fait ce qu'il doit faire,
mais toujours en goûtant.
Et finalement, on a découvert ce que c'est qu'être fils. Être fils, c'est agir en sous-ordre de Dieu, du Père. Et être fils, pour Jésus, c'est épouser l'humanité qui manque. Et lui donner une surabondance là où elle manque, dans la ligne de ce dont elle manque. Et croire, c'est découvrir que Dieu est toujours surabondant par rapport à ce que nous désirons. Il nous donne toujours plus. Moyennant une obéissance. Cette obéissance, c'est quitter mes propres vues, mes propres manières de faire, mes propres manières de voir, pour recevoir le ciel. Mais c'est pas évident, mais c'est tout à fait normal. Entre époux et époux, c'est ce qu'on fait, hein. On se fait plaisir l'un à l'autre, non? Après ceci, c'est un billet à Capernaum. Avec ça, on peut entrer vers la vie de tous les jours. Capernaum. Le Capernaum de tous les jours. Les ordres, lui et sa mère. Et là, c'est de nous. Vous voyez, quand on lit Cana dans la suite du texte, ça signifie quelque chose. Jésus, tel qu'il est ici, va entrer dans la réalité humaine pour nous faire enfants de Dieu. Il a donné autorité, il nous a donné de l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et proche. Et c'est la Pâque des Juifs. On a passé la mer Rouge et on s'est purifié. Donc on peut aller à ça. Proche, c'était la Pâque des Juifs. Et ils montent vers Jérusalem, Jésus. On était en Galilée, on va à Jérusalem. Ah, voilà un principe. Galilée, Jérusalem. Galilée, Jérusalem. Galilée, Jérusalem. Vous allez voir. Il en est de proche. Proche était la Pâque des Juifs. Tandis que les synoptiques, hein, Matthieu, Marc et Luc, vous mettent d'abord toute la Galilée et puis la montée à Jérusalem qui vient qu'une fois. Avec Saint Jean, ça va venir trois fois. Proche était la Pâque des Juifs et il monta vers Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendent bœufs et brebis et colombes. Il est changeur de monnaie. Il est tentatif. On nous avoir déjà dit qu'il fallait changer son argent parce qu'on ne pouvait pas acheter des brebis pour le sacrifice avec de l'argent de Rome. Il fallait le changer. On ne pas quand même aller mettre dans le trésor du temple la tête de l'empereur. On ne va pas. Donc il fallait changer de monnaie. Et les changeurs de monnaie, quand même. Et ayant fait un fouet de corde, il est plus fort que les autres, tous, il les jeta dehors du temple, il les brebis et les bœufs, il les bandit, il les bandit la monnaie. Et les tables, il les tourne en temps. Et à ceux qui vendent des colombes, il dit, enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Il a été lire Jérémie chapitre 7. Il se souvint ces disciples qu'il se trouve écrit.
Oui, c'est sûr qu'il se trouve. Mais comme ils connaissent bien les psaumes,
la jalousie de ta maison me dévore.
Le deuil de ta maison me dévore. Psaume 61. Ils répondirent donc, les Juifs, et ils lui dirent,
quel signe nous montres-tu que tu fais cela?
Quel, voilà que on interrogeait Jean-Baptiste pour savoir pourquoi il baptisait.
Maintenant on interroge Jésus.
Vous voyez que l'interrogatoire continue. On a interrogé le témoin, maintenant on interroge la personne. Suspect.
Il répondit Jésus et il leur dit, délier ce sanctuaire et en 3 jours je l'éveillerai.
Curieux. Délier ce sanctuaire et en 3 jours je l'éveillerai.
Ils dirent donc les Juifs, en 46 années, il fut bâti ce sanctuaire.
Effectivement, Hérode avait mis 46 ans à reconstruire le temple.
L'embellit,
pas reconstruit, il n'avait pas été détruit,
mais l'embellit.
Et toutes les constructions, les grandes pierres que nous voyons encore aujourd'hui, datent de cette époque. Donc de l'époque d'Hérode, pierre immense, 5 mètres de long, 1 mètre de large.
En 46 années, il fut bâti ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu l'éveilleras.
Or, celui-ci disait au sujet du sanctuaire de son corps.
Quand donc il fut éveillé, ses bras, il se souvint, ses disciples, que ceci il le disait. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que leur dit.
Donc, il nous dit bien, saint Jean, qu'on ne peut pas comprendre tout de suite ce que dit l'Évangile. Il faut passer par la mort et la résurrection de Jésus.
Donc, comme il était en Jérusalem, dans la Pâque, dans la fête, beaucoup crurent vers son nom.
Là aussi. En Galilée et en Judée, on croit vers son nom.
Observant ses signes, ce qu'il faisait. Or, lui, Jésus, ne croyait pas à lui.
Eux croient à lui, mais eux ne croient pas à lui.
En raison de ce qu'ils les connaissaient tous. Et que c'est bien une affaire de connaissance. Et parce qu'ils n'avaient pas besoin, afin que quelqu'un rende témoignage au sujet de l'homme.
Non, le témoignage se rend au sujet de Dieu. Le témoignage ne se rend pas au sujet de l'homme. Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme. Car lui connaissait ce qui était dans l'homme.
De nouveau, qu'est-ce que tout ça veut dire? Vous voyez qu'il y a un signe Cana et il y a un signe au temple.
Il y a fort à parier que ces deux signes veulent dire à peu près la même chose. Ils sont tellement jumelés, hein? On peut dire ça, quand on connaît le style des prophètes.
Qu'est-ce qu'il dit dans ce temple? D'abord, on s'est étonné de voir Jésus monter tout de suite à Jérusalem et faire un geste dans le temple que les synoptiques inscrivent à la fin de la vie de Jésus.
Parce que nous avons une image des rameaux, juste avant.
Curieux, donc il y a quelqu'un qui déplace les affaires.
C'est probable que ce soit un genre qui déplace les affaires.
Et il le met tout de suite, au début. Alors, il nous fait quand même un clin d'œil. Puisqu'il nous dit quand même qu'il y a eu beaucoup de signes. Donc, il nous dit bien qu'il ne faut pas prendre tout ça comme argent comptant sur le plan de la succession qui soit. Mais il faut mettre les deux choses en rapport. Comment Jésus intervient en Galilée, dans une noce, et comment il intervient à Jérusalem en prenant possession du temple. Et le temps que ça devient son corps.
Bon, vous n'êtes certainement pas le premier à avoir dit ça. Hein. Vous vous rappelez bien que au chapitre 66e d'Isaïe, nous avons vu l'an passé, c'était le dernier chapitre d'Isaïe.
Ainsi parle le Seigneur, au début du chapitre 66. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et en quel endroit le lieu de mon repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait
Et tout cela est à moi, oracle du Seigneur. Mais, celui sur qui je jette les yeux, c'est le pauvre et le cœur compris qui prend bien ma parole. Comme si le véritable temple, c'était le petit. Donc, il peut s'approprier ce temple en disant que c'est lui. Et que fait Jésus? Jésus fait ce que Jérémie, chapitre 7, je vous l'ai dit, on a déjà pris ce texte, ce que Jérémie avait fait. Il va se poster à la sortie de la messe, au temple, et il dit, bon, vous vachiez tous de votre beau temple, temple du Seigneur, temple du Seigneur, temple du Seigneur, mais après ça, vous allez voler, tuer, commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom, et dire nous voilà en sûreté pour continuer toutes ces abominations. À vos yeux, c'est une caverne de voleurs, ce temple qui porte mon nom. Le temple, ce n'est pas le lieu où l'on va rencontrer Dieu. C'est le lieu où Dieu nous rencontre. Donc c'est notre vie. Et là, le véritable temple. Ça vaut pour chacun, ça vaut pour Jérusalem. Il ne faut pas se tromper de temple. Alors, quand on fait du temple un objet de commerce, on oublie la présence. La jalousie de ta maison me dévore. C'est ce que Jésus dit, psaume 69, oh non, c'est pas ce que Jésus dit, c'est ce que les disciples se remémorent à partir de ce que Jésus a fait. Donc ils interprètent. Voici donc le texte. Ô Dieu, tu sais ma folie, mes offenses sont à nu devant toi. C'est un pécheur qui parle. Qu'ils ne rougissent pas de moi ceux qui t'espèrent, qu'ils n'aient pas honte de moi ceux qui te cherchent. Seigneur des armées, Dieu d'Israël, c'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle ou la jalousie de ta maison me dévore, l'insulte de tes insulteurs tombe sur moi. Autrement dit, je prends vraiment cette cause pour toi. Je prends d'autant plus que je suis ton corps. Vous vous rappelez le texte d'Isaïe, de l'Épître aux Hébreux, tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire aux yeux ta volonté. Jésus, qui se prenait pour l'époux de l'humanité, se prend maintenant pour la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il est l'époux de l'humanité. Et donc, il répondit Jésus, et il leur dit dédier ce sanctuaire, en 3 jours je le réaliserai. Il connaît évidemment le prophète Osée, chapitre 11, il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il bandera nos plaies. Après 2 jours, il nous rendra la vie, le 3e jour, il nous relèvera. C'est presque une citation de Osée, chapitre 6, verset 2. Délier ce sanctuaire, et en 3 jours, je l'éveille, je vous donnerai. Il ne faut pas se tromper de sanctuaire. Or, celui qui disait au sujet du sanctuaire de son corps, et donc quand il fut éveillé des morts, on vous dit tout de suite que la passion de Jésus est réelle, que cette passion, il se la fit parce qu'il est tout dévoué aux affaires du Père,
le Père de l'Église,
mais que ça va s'achever, l'accomplissement, c'est dans la résurrection. Quand il fut éveillé des morts, il se souvint des disciples de ce qu'il le disait, et il crut à l'Écriture et à la parole que leur dit Jésus. Ça, c'est important. Ils crurent à l'Écriture parce que l'Écriture devient visage pour eux. Qu'est-ce que ça voulait dire le chapitre 66e d'Isaïe ? Maintenant, on découvre. On découvre en sa personne que tout homme est temple de Dieu. Et donc, qu'avec son temple, le temple de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons pas faire du bon. Jésus fait des signes, et ces signes invitent à la foi. Force pas à quoi, mais quand on fait un signe à quelqu'un, il faut qu'il reconnaisse le signe qu'on a. Mais Jésus ne se fie pas ou ne croyait pas dans ces hommes, en raison de ce qu'ils les connaissent. Jésus connaît le défaut de la pirate. Ah tiens, ici aussi. Comme il connaissait le manque de vin que sa mère a détecté, ici aussi il y a un manque. Il y a un manque de foi. Et quand on dit que Jésus ne se fiait pas à eux, ou qu'il ne se croyait pas à eux, en raison de ce qu'il les connaissait tous, il faut bien qu'il mesure la différence. Si Dieu ne découvre pas le manque, s'il ne nous le révèle pas, comment voulez-vous qu'il le comble ? Il ne peut combler un manque que dans la mesure où il a lui-même fait le vide. Il a fait découvrir qu'il y avait un creux. Et donc quand Jésus, dans sa parole, nous creuse, elle fait la place. Elle enlève ce qui a trop de nous pour que nous puissions recevoir ce qui a trop de nous. C'est-à-dire de sa plénitude. De sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce, de grâce, grâce. Voilà. Des deux côtés, il y avait vraiment. On ne découvrait pas la profondeur et la dignité de l'homme à Jérusalem. On ne découvrait pas que l'homme était présent de Dieu. Et voilà ce que Jésus donne chez lui. On ne découvrait pas que l'homme avait cette alliance, que Dieu avait cette alliance avec l'humanité, à telle enseigne qu'il venait d'écouter. Voilà deux choses qu'il fallait comprendre. Une chose fallait la comprendre en Galilée, et une deuxième chose, il fallait la comprendre à Jérusalem, la purification du temps. Vous voyez, cette purification, c'est en vue d'un surcroît, comme la purification de l'eau des Juifs demandait un surcroît, un repas, ici, une présence. Et Jésus nous dit, vous n'êtes pas encore au niveau. Très bien, nous pouvons continuer. Quand on ne comprend pas, quand on sait qu'on ne sait pas, on commence à découvrir et qu'on peut se voir. Et tu l'as dit, le débat, il continue de dire. Et maintenant, nous devons répondre. Un nouveau maître spirituel, paru chez Beauchesne, il y a déjà un certain temps, parce que c'est avant sa mort. Donc ceci est d'avril de 76. Chez Beauchesne, donc maître spirituel, si vous pouvez trouver ça, c'est toujours excellent. Excellent parce que c'est vraiment le... Comment dirais-je ? C'est l'essentiel de sa recherche qu'il a mis. Vous avez trois parties dans ce livre, l'initiative divine, puis la deuxième partie, c'est la réponse humaine, qui signifie croire, connaître, aimer, demeurer, prier, chez les gens. Et la troisième partie, ce sont les épîtres johanniques. Donc ils verront tout ça ensemble, et en 200 pages, même pas 200 pages, vous avez l'essentiel. Donc ce n'est pas un commentaire de l'Évangile. Saint Jean, maître spirituel.
Alors, comment ce mot-là ?
Et on devient athée. Voilà. Voilà. Donatien. Donatien, parce qu'il y a son neveu qui a édité trois livres après sa mort. Attendez, je n'ai pas le nom ici, mais je vous le donnerai l'année de la maintenant. Et on devient athée. Voilà. Donatien. Mais je vous donnerai le nom des deux autres aussi. Alors, il avait écrit aussi dans la collection Vie chrétienne, mais ça vous ne le trouverez plus en commerce, je ne crois pas. C'est plus ancien, c'est 1964. Mais dans Initiation à la lecture spirituelle de Saint Jean, vous trouvez ça probablement encore dans les bibliothèques, dans les couvents ou dans les écoles. Ce qui vaut vraiment la peine pour la méditation, pour une lecture spirituelle, donc c'est Initiation à la lecture spirituelle de Saint Jean. Mais c'est 64, vous voyez, c'est plus ancien. Alors il a écrit aussi, si vous le trouvez dans une vieille bibliothèque, il avait fait cela, une méditation sur Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean, pour des foyers de l'équipe Notre-Dame. Et ce sont deux petits fascicules que vous pouvez peut-être encore trouver quelque part. Et je ne crois pas qu'il soit dans le commerce, qu'il n'ait jamais été. Ça a été diffusé par les équipes Notre-Dame, autrefois. Et c'est toute une méditation sur l'ensemble de l'Évangile. Mais ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est presque un commentaire un peu plus fourni que celui-ci, la initiation à la lecture spirituelle de Saint-Jean. Donc ce que le Père Mola a toujours voulu essayer de découvrir dans Saint-Jean, c'est sa profondeur spirituelle. Et il y a pas mal réussi, il faut dire. Il a contribué à faire aimer Saint-Jean par des générations de prêtres, de laïcs. Et vraiment, quand je l'ai rencontré, la veille de sa mort à Jérusalem, il était encore tout rempli de cette présence joannique. Donc je vous le signale. Alors, le petit lion, c'est toujours bien d'être édité, oui. Hein. Ça, c'est l'ancienne édition. C'est ça. Donc, c'est la collection Lire la Bible, ceci, numéro 32. Et ceci, c'est 32 bis. Vous trouverez 32 bis en librairie, mais plus 32, je ne crois pas. C'est 84. La réédition est de 84, tandis que l'édition est de 72, oui.
Et c'est 384.
Voilà. Ceci, c'est très suggestif. Donc c'est lire Saint-Jean. Très suggestif. Lion. André Lion. Lion comme le lion. L-I-O-N.
C'est Antoine.
Antoine, oui, je crois.
Dans mon édition.
Ah ben oui, dans le mien, il y a A, et quand on regarde à l'intérieur, on voit que c'est Antoine. Et justement, j'ai toujours aimé la manière dont il commence son livre en citant Peggy. Ce qu'il ne faudrait jamais cesser d'être, des lecteurs purs, qui lisent pour lire, non pour travailler, de purs lecteurs, qui d'une part sachent lire, et qui d'autre part veuillent lire. Qui enfin toute une mort lise, et qui lise toute une immense. Des hommes qui regardent une œuvre toute une immense, pour la voir et la recevoir, qui lisent une œuvre toute une immense pour la lire et la recevoir, pour s'en alimenter, pour s'en nourrir, comme d'un aliment précieux, pour s'en faire croire, pour s'en faire valoir. Intérieurement, organiquement, nullement pour travailler avec. Des hommes aussi, des hommes enfin, qui sachent lire. Et ce que c'est que lire, c'est-à-dire que c'est entrer dans. Donc quoi, mon ami ? Une œuvre, dans la lecture d'une œuvre. Ça, c'est Peggy. Mais c'est tout à fait ça. On ne peut lire qu'à force. sur tous les mots. Des hommes qui sachent lire et qui veuillent lire. Voilà, lire Saint-Jean. Alors, le dernier commentaire, je crois, enfin, je ne sais jamais, parce qu'on a toujours apparu beaucoup dans toutes les langues, hein. C'est celui du Père Léon Dufour. Deux petits livres. À troisième, parce que ici nous sommes au chapitre 12, donc il faudra en compter encore un et peut-être encore deux. Voilà, donc c'est dans la collection, dans cette autre édition du Seuil, la collection Parole de Dieu, lecture de l'évangile selon Jean. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce livre, vraiment, vraiment. Je trouve qu'il fait une bonne œuvre d'unification. Et c'est lui aussi à donner avec d'abord, en même temps que, et puis après le Père Mola, il a donné le cours sur l'évangile de Jean, pendant très longtemps, en théologie, à Chantilly notamment, et à Lyon. Et vraiment, il met dans ce livre beaucoup de lui-même. C'est vraiment un livre qui est plein d'une grande expérience. Et je crois que pour commenter Saint-Jean, il faut l'exprimer avec une grande expérience à la fois théologique et spirituelle. Et on n'a jamais fini. Bon, voilà. Il y a également, il y a beaucoup de livres sur Saint-Jean qui ont paru ces dernières années, mais je vous recommande aussi pour ça. Vous voyez, Jésus-Christ dans l'évangile de Jean ne fait pas double emploi avec le livre de Donatien Mola. Mais ceci est plus un livre suggestif. Il permet de découvrir la personne de Jésus. Il met souvent dans des tableaux, dans des encadrés, il met souvent des textes ensemble qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble. Et donc, ce n'est pas proprement parlé d'un instrument de travail, mais ceci peut aussi alimenter la prière. Voilà. Il y en a encore, vous savez, mais j'en apporterai, puis je vous en donnerai d'autres que je n'ai pas pris avec moi, parce que j'ai déjà beaucoup apporté. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, le chapitre 3e. Mais, avant de commencer le chapitre 3e, je vais faire un petit dessin. On va passer à la première question, la première question. Mais je vais simplement vous dessiner le temple de Jérusalem. Vous allez voir pourquoi, à quoi ça sert. Le temple de Jérusalem était constitué d'un grand rectangle qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Omar, qui n'est ni une mosquée ni d'Omar, peu importe. C'est un domaine, comme le disent les musulmans, c'est le domaine du rocher. Le rocher sur lequel était construit, et le rocher se trouvait ici, se trouvait construit le grand autel des sacrifices. Et donc ici vous aviez l'autel des sacrifices, et en face le petit autel des parfums. Cet autel de sacrifice, hein, ça montait à 5 ou 6 mètres de haut, hein, une grande esplanade. Et alors, le temple était composé de ce qu'on appelle le oulam, c'est une sorte de vestibule, ou le saint. Généralement par le saint, et ici ce qu'on appelle le saint des saints. Les proportions ne sont pas exactes, le saint des saints est plus petit que l'autre saint. Et ici ce qu'on appelle le devir ou le trésor. Devir, trésor. Ça c'est la banque nationale derrière. C'est la réserve de trésor. Et puis devant, alors ici vous aviez le bourg, et
15 marches pour accéder à la porte de Nicanor. Ces 15 marches, hein, c'est en l'honneur de ces 15 marches que vous avez les psaumes démontés, les cantiques démontés, les cantiques des degrés. De 15 degrés, il y a 15 cantiques, 15 psaumes pour pénétrer dans le monde. Alors ici, dans les coins, il y avait également des sacs, peu importe. Ce qui nous importe, c'est que le Saint des Saints, le Temple, pour accéder donc, ici, on avait ce qu'on appelle le parvis des Juifs. Et donc seuls les hommes qui venaient présenter leurs offrandes montaient par ici. Pour présenter l'offrande, pour présenter les animaux, les animaux. Donc vous avez le temple, avec justement devant le parvis des Juifs, premier parvis, des Juifs, retenez bien ça. Tout ceci était entouré d'une cour, d'un autre parvis, avec des degrés. Ceci à l'époque du temple de Dévot, bien entendu. Ceci, ce qu'on appelait le parvis des femmes. Et puis, une grande enceinte entourait tout cela, et cette grande enceinte était appelée le parvis des gentils ou des nations. Et c'est ici, c'est dans ce parvis, que nous avions, ici par exemple au sud, vous savez, la proportion serait peut-être beaucoup plus large, hein, c'est parce que la feuille est plus large. D'ailleurs, je pourrais dessiner pour vous. Et ici, ça, c'est ce qu'on appelle la colonnade, le portique de Salomon, c'est vrai, vers le sud. Ce parvis des nations, qui était beaucoup plus large, était la cour où étaient situés notamment les échanges d'échangeurs et des vendeurs de produits. Alors, entre le parvis des nations et le parvis des femmes, il y avait un petit muret avec différentes entrées, et on a trouvé une inscription entière, des morceaux d'inscription qui se trouvaient sur des pierres aux différentes entrées vers le parvis des femmes. Un avertissement en grec aux non-juifs, aux nations, aux païens, en leur disant que c'était à leur risque et péril qu'ils pénétraient à l'intérieur de l'enceinte parmi les femmes ou les noirs. Donc, normalement, les non-juifs ne pouvaient pas accéder plus loin que ce parvis des nations. Vous savez que saint Paul a été accusé d'avoir amené des juifs, c'est-à-dire c'était des chrétiens, bien sûr, des non-juifs, pardon, des chrétiens, des païens, non du paganisme, à l'intérieur de l'enceinte du temple. C'est là que saint Paul a été lui-même arrêté. Alors, si je vous donne ce plan du temple, ce n'est évidemment pas pour rien. C'est parce que je crois que c'est l'idée de ce temple qui va être développée à travers les chapitres qui suivent. Vous avez le Saint des Saints qui fait partie des Juifs, qui va accéder le premier à Jésus, un Juif, Nicodème. Puis le chapitre 4e, c'est une femme, et qui faisait une Samaritaine. Elle était considérée dans le judaïsme, mais à la limite. Elle n'était pas païenne. Et puis vous allez voir un non-Juif, un païen. Donc je crois que, après avoir parlé du temple de son corps, il va montrer comment le temple de son corps engage tous ceux qui font partie de son corps. Mais avec une certaine hiérarchie. On commence par les Juifs, les femmes, les nations. Il y a une sorte d'ouverture progressive de son corps. Nous allons voir donc comment cela va s'expliciter à travers les chapitres 3 et 4. Il y avait un homme d'entre les pharisiens, avec on raccroche avec des Parisiens, que nous avons vu, qu'ils avaient envoyé des membres pour interroger Jean le Baptiste au début du mois. Il y avait un homme d'entre les Parisiens, Nicodème, nom à lui, un chef du jeu. C'était son nom. Nicodème, c'est celui qui fait voyager la victoire. Hein. Nico, Niké, la victoire. Démos, déménagement. Un dème, un endroit, une région. Région sociopolitique. À l'époque grecque. Nicodème, son nom à lui, un chef des Juifs. Donc il fait partie des pharisiens. Voilà un pharisien qui accède à Jésus. Après, les disciples, et après, nous avons vu la manière dont sa mère était interdite. Celui-ci vint auprès de lui de nuit. Et il lui dit, Rabbi, ah voilà, un des titres de Jésus, Rabbi, nous savons qu'à partir de Dieu tu es venu, maître. Et de nouveau, il redonne la traduction de Rabbi, maître. Car personne ne peut faire ces signes que toi tu fais, si éventuellement Dieu n'est pas avec lui. Lui a déjà le regard très fin. Il répondit Jésus et il dit, Amen, Amen, deuxième fois que nous découvrons une affirmation de Jésus. Amen, Amen, je te le dis. Si éventuellement quelqu'un n'est pas engendré d'en haut ou engendré à nouveau, ça veut dire les deux, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc pour voir, il faut être engendré, à nouveau ou bien d'en haut. Il dit à son adresse, Nicodème, comment peut-il un homme être engendré étant vieux? Et ça ne dépasse pas ce qu'il dépasse. Comment un homme peut-il être engendré étant vieux? Est-ce qu'il peut entrer une deuxième fois vers le ventre de la mer et être engendré? Il répondit Jésus, Amen, Amen, je te dis, si éventuellement quelqu'un n'est pas engendré d'eau et d'esprit, voilà la nouveauté ou l'en haut. Il faut être engendré d'eau et d'esprit. Ça caractérisait la manière dont Jésus allait baptiser. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tout à l'heure, il ne pouvait pas voir. Maintenant, il ne peut pas entrer. Il faut voir et entrer. Ce qui se trouve engendré de la chair est chair. La chair, c'est toujours la faiblesse humaine. Hein. Dans Saint Jean, comme aime à le dire Jean Rotson, la chair, c'est la chair fragile. La fragilité, la vulnérabilité de l'homme. Ce qui se trouve engendré de la chair est chair. L'homme est un être vulnérable. Ce qui se trouve engendré de l'esprit est esprit. Et Saint Jean oppose toujours chair à esprit. La fragilité et la force de Dieu. Fragilité de l'homme, de force. Donc ce qui se trouve engendré de la chair, c'est chair. Ce qui se trouve engendré de l'esprit, c'est l'esprit. Ne t'étonne pas que je te dis qu'il vous faut être engendré d'en haut ou de nouveau. Ne t'étonne pas. Il ne faut pas rentrer dans le Saint-Salem. Si c'était sur le plan de la chair, oui. Mais il y a un autre plan. L'esprit, là où il veut, il souffle. Et il faudrait traduire le souffle, là où il veut, il souffle. Parce qu'ici, il utilise un terme différent. Pas pneuma, il dit pneuma. Le souffle, là où il veut, il souffle. Et sa voix, tu l'entends. Mais tu ne sais d'où il vient et où il part. Ainsi est tout qui se trouve engendré de l'esprit. Quand on ne sait pas d'où il vient, où il va, il est libre. C'est la liberté. Mais en même temps, je ne peux pas mettre la main sur le ventre. Je ne peux pas l'enfermer. Il est là, je l'entends, il est présent, mais je ne peux pas l'enfermer. Je ne peux pas le programmer. Je ne peux pas l'enfermer. répondit Nicodème, et il lui dit, comment cela peut-il devenir? Il répondit Jésus, et il lui dit, toi, tu es le maître d'Israël, et cela tu ne le connais pas. C'est toujours une question de connaissance. Amen, amen, troisième fois, je te dis, ce que nous savons, nous le parlons. Ce que nous avons vu, nous en rendons témoignage. Et notre témoignage, vous ne le prenez pas, vous ne le recevez pas. Si les réalités terrestres, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, comment, si éventuellement je vous dis les réalités célestes, croirez-vous? Si vous restez au ras de pâquerettes, jamais vous ne découvrirez la profondeur de la parole de Dieu. Et personne n'est monté vers le ciel, sinon celui qui descendit du ciel, le Fils de l'homme. Vous ne pouvez pas, avec vos propres forces à vous, vous élever jusqu'au ciel. Personne n'est monté vers le ciel, sinon celui qui descendit du ciel, le Fils de l'homme. Et selon que Moïse exalta le serpent dans le désert, ainsi il faut que soit exalté le Fils de l'homme, afin que tout qui croit en lui ait vie éternelle. Allons voir la suite. Mais il avait parlé des anges qui montaient et descendaient sur le Fils de l'homme, et il continue avec cette idée. Nous allons voir la suite. Car ainsi il aima Dieu le monde, de sorte que le Fils, l'unique engendré, il le donna, afin que tout qui croit vers lui ne périsse pas, mais ait vie éternelle. Et il est passé, subrepticement, de la vie que la maman donne à l'enfant, à la vie éternelle, à la vie que Dieu donne. Il est passé des choses matérielles, ou des choses simplement humaines, aux choses spirituelles, c'est-à-dire les choses de Dieu. Car il n'envoya pas Dieu, le Fils, vers le monde, afin qu'il juge le monde, mais afin qu'il soit sauvé, le monde, par lui. Voilà le monde qui revient en force. Celui qui croit vers lui n'est pas jugé. Celui qui